Chapitre 7 Au serpent qui fume, partie 1. Les jours suivants, Lucius et Narcissa restèrent cloîtrés dans leur chambre afin d'échafauder le plan qui leur permettrait de s'attirer les faveurs de Voldemort. Ils n'ouvrirent leur porte à personne, pas même à Prunas qui vint plusieurs fois sommer Lucius de descendre parler à son père. « N'y va pas », lui conseilla Narcissa à chaque fois qu'elle voyait le regard de Lucius glisser vers la porte. « Tu lui expliqueras le moment venu. Montre-lui que tu es capable d'agir sans le consulter. » Et chaque fois, Lucius se laissa convaincre, même si l'idée de désobéir à son père semblait l'angoisser démesurément. Pendant ces quelques jours, Narcissa retrouva le Lucius qu'elle avait connu avant leur mariage, celui qui était doux et tendre avec elle, qu'elle embrassait sur la joue en riant, avec qui elle pouvait se moquer de tout le reste. Elle se félicitait. Son plan semblait déjà fonctionner, puisque Lucius était redevenu lui-même, restait à ses côtés et écoutait ses propositions avec intérêt, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Ensemble, ils se mirent d'accord sur toutes les étapes, sur toutes les dates cruciales, sur tous les détails de leur plan. Ils envoyèrent une lettre au crabe pour les envoyer sur une fausse piste. Ils riaient et s'embrassaient sans cesse, exaltés et complices, étonnés par leur propre audace. Un soir, ils revêtirent des vêtements sombres et élégants, ainsi que deux capes de velours noir au fermoir d'argent. Ils descendirent au rez-de-chaussée à pas feutrés, afin de ne pas croiser Abraxas Malfoy. Lucius, aux aguets, regardait furtivement autour de lui, comme s'il s'apprêtait à le voir surgir à tout moment. Près de la porte, Narcissa aperçut la canne de son beau-père, dont le pommeau argenté était sculpté en forme de tête de serpent. Elle songea que tous les moyens étaient bons pour impressionner Voldemort et ses sbires et s'empara de la canne pour la donner à Lucius. « Mon père va la chercher partout », dit Lucius, réticent à l'idée de lui désobéir une fois de plus. « Quand tu lui expliqueras pourquoi tu lui as prise, il comprendra », répliqua Narcissa en saisissant la main de Lucius pour la serrer autour de la canne. Ils se rendirent dans le salon, se placèrent entre les deux colonnes de marbre de la cheminée, prirent chacun une poignée de poudre de cheminette et déclarèrent en chœur « Chemin de traverse !» Après une explosion verte, le chemin de traverse apparut devant eux, désert et lugubre. Narcissa entraîna immédiatement Lucius vers l'allée des embrumes en marchant d'un pas rapide, excité par leur propre imprudence. Leurs capuchons enfoncés sur leur tête, ils gardaient le visage baissé et maintenaient leur cape fermée pour cacher aux mendiants leurs bijoux et leurs vêtements précieux. Ils passèrent donc devant les diverses enseignes de l'allée des embrumes, le cerveau flou, la corne rouge. Narcissa ignorait les mendiants qui s'agrippaient à sa cape et Lucius les repoussait d'un coup de canne contre les vitrines remplies d'ongles humains, de têtes miniatures, d'araignées et de cervelles en bocaux. Enfin, Narcissa s'arrêta en reconnaissant la devanture encrassée et opaque qu'elle cherchait. Au-dessus de leur tête, les inscriptions mal entretenues se dressaient au-dessus de la vitrine, soulignées par un long reptile vert gravé dans le bois et indiquaient le nom de l'établissement. Au serpent qui fume. « C'est ici ?» demanda Lucius. « Oui, c'est encore plus sinistre que dans mes souvenirs. Reste bien près de moi !» lui dit Lucius en serrant ses doigts gantés de cuir autour de sa main. Narcissa le regarda avec amusement. « Tu as peur ?»« Pas du tout. Seulement, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Narcissa ne put s'empêcher de rire. Elle-même ne pensait qu'à Bellatrix, qui ne se trouvait plus qu'à quelques mètres d'elle et à l'impatience qu'elle ressentait à l'idée de la serrer dans ses bras. « Je ne plaisante pas, » dit Lucius. « Allons. » l'encouragea Narcissa. Pense à ce que ton père dira quand tu lui raconteras tout ce que tu as vu. Lucius acquiesça et serra contre lui la canne au pommeau sculpté. Prêt ? Allons-y, dit Lucius avec plus d'assurance. Ils échangèrent un dernier regard, un petit signe de tête d'encouragement. Ils raffermirent leur prise sur le bras de l'autre, puis montèrent les quelques marches et franchirent en même temps la porte opaque qui les séparait de Lord Voldemort. Dans le sous-sol du serpent qui fume, Voldemort et ses partisans réfléchissaient justement à la meilleure manière de punir les sorciers qui refusaient de le rejoindre. Voldemort était tranquillement assis à une table ronde, ses mains pâles et nacrées jointes devant lui. Un capuchon noir recouvrait son crâne presque chauve et plongeait le haut de son visage dans l'obscurité. On ne voyait de lui que son sourire malveillant et ses pupilles qui rougeoyaient dans l'ombre. Une dizaine d'ombres se pressaient autour de lui et se battaient pour obtenir son attention. Tous buvaient des chopes remplies de liquide fluorescent, visqueux et mouvant. Le liquide était vert s'il s'agissait de bigoliard, rouge s'il s'agissait de brûlator, gris foncé s'il s'agissait de tête tournie, et jaune vif s'il s'agissait de décroche-pense. Ils parlaient avec animation, entrechoquaient leurs verres en aspergeant leurs voisins, la table et le sol. Les boissons renversées sur les dalles de pierre produisaient des bulles opaques qui, en éclatant, éclaboussaient les pieds de chaise et les chaussures alentour. Eux aussi possédaient un fumsbier, mais celui-ci était de bien moins bonne qualité que celui des Malfoy. La fumée qui s'en échappait produisait des formes instables, floues, et dégageait une odeur âcre qui rendait l'atmosphère difficilement respirable. À l'écart du groupe, sous une arcade, Bellatrix observait une bulle qui se formait au fond de sa chope de bigoliard avec abattement. Ses doigts tremblaient légèrement autour du verre, sa cape noire était en piteux état, et sur son visage émacié, on n'avait pas vu l'ombre d'un sourire depuis bien longtemps. Dans le groupe d'hommes qui se pressaient autour de Voldemort, personne ne s'en étonnait. Cela faisait un long moment que son humeur était mélancolique, et la situation était loin de s'arranger. En effet, l'époque exaltante où Bellatrix assassinait des moldus aux côtés de Voldemort, dont elle était alors l'unique élève, était révolue depuis longtemps. Depuis, Voldemort lui avait ordonné de lui trouver d'autres combattants. Bellatrix avait alors rallié à leur cause ses anciens camarades de Poudlard, Corban Yaxley, Thorfinn Rohl, Dorémus Gibbon, les Carreaux, les frères Lestrange. Bellatrix avait mis du cœur à l'ouvrage, soucieuse de satisfaire son maître. Elle était ensuite allée chercher Walden McNair et Traverse, qu'elle connaissait à peine, ainsi qu'Antonin Dolohov, un ancien préfet de Serpentard. Tous, sans exception, avaient répondu à l'appel. Après ce succès, Bellatrix pensait rester l'élève privilégié de Voldemort, mais il n'en fut rien. Celui-ci considéra qu'il n'avait plus rien à apprendre à Bellatrix et se consacra tout entier à la formation de ses nouveaux disciples. Rapidement, ils avaient quasiment égalé Bellatrix, si ce n'était en puissance, du moins en cruauté. Voldemort en était ravi, et Bellatrix s'efforçait de s'en réjouir. Ce que le Seigneur des Ténèbres souhaitait, elle le souhaitait aussi, se répétait-elle inlassablement. Car après ses premiers succès, il s'était heurté à la réticence des sangs purs plus aisés qui rechignaient à se battre et à renverser un système qui, au fond, leur était toujours profitable. Bellatrix avait alors sollicité sa petite sœur Narcissa, persuadée qu'elle parviendrait à la convaincre de se joindre à eux et persuadée qu'elle entraînerait les Goyles avec elle, puis tous ces imbéciles de Colinards avachis. Mais son plan avait échoué car Narcissa avait catégoriquement refusé et quelques mois plus tard, à son mariage, elle l'avait traité comme une malpropre et ne lui donnait plus aucune nouvelle depuis. Pendant ce temps, la stratégie des Mangemorts avait également évolué. Maintenant, il ne s'agissait plus de tuer directement, mais de manipuler afin de prendre le contrôle du ministère. Voldemort recommandait désormais l'usage du sortilège Imperium davantage que celui des deux autres sortilèges impardonnables, pour le plus grand plaisir de Corban Yaxley, qui était extrêmement doué pour soumettre les esprits les plus rebelles à sa cruelle volonté, et s'attirait ainsi toutes les grâces de Voldemort. Bellatrix, en revanche, n'appréciait pas ces nouvelles méthodes. Depuis ses premiers pas aux côtés de Lord Voldemort, elle avait trouvé une jouissance infinie dans ses meurtres irréfléchis, impulsifs, gratuits. Et maintenant, il fallait calculer, surveiller, manœuvrer. Pourquoi tant de manigances si assommantes alors que leur puissance était si grande et ne demandait qu'à tout détruire sur son passage? Pourquoi refusait-il de se montrer en plein jour pour affronter directement les aurores? Lorsque Bellatrix avait manifesté son impatience, on l'avait prié d'attendre docilement le moment opportun pour renverser le ministère. Et de quoi avaient-ils peur au juste tous ces incapables? Pourquoi étaient-ils si pressés de remettre à plus tard les confrontations directes? Non. Décidément, les tours et les détours qu'ils empruntaient ne plaisaient pas à Bellatrix. Il y a peu, Yaxley avait décidé de soumettre Cassandre Chabi, une aurore un peu trop vantarde, au sortilège de l'Imperium. Et il avait presque réussi, en soumettant d'abord son mari, qui leur avait docilement ouvert la porte de leur maison entourée des sortilèges de protection les plus puissants qui soient. Mais au moment fatidique, alors que Cassandre Chabi venait de rentrer chez elle et que Yaxley s'apprêtait à faire appel à son talent de manipulateur hors pair pour l'ensorceler, Bellatrix n'avait pas pu résister à la tentation de la tuer. En faisant capoter ce plan, elle s'était attiré les foudres de Voldemort, ce qui la plongeait dans un état de profond désespoir. Malgré tout, Bellatrix savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle était la seule qui comprenne vraiment le Seigneur des Ténèbres, comme lui-même la comprenait. La seule qui ait accès à quelques-uns de ses secrets. Voldemort avait même fait garder dans son coffre de Gringotts une coupe dorée qui semblait être un objet de la plus haute importance. « Je tiens à cette coupe autant qu'à toi, Bellatrix. Alors tâche d'en prendre soin !» lui avait-il dit en lui glissant délicatement la coupe dorée entre les mains. Il lui arrivait donc encore d'être tendre avec elle, même si ces moments se faisaient rares. C'était bien la preuve qu'il avait de l'affection pour elle. Mais alors, pourquoi persistait-il à l'ignorer parfois pendant plusieurs semaines d'affilée? Un autre facteur exerçait une grande influence sur l'humeur de Bellatrix, l'absence de son cousin Régulus. En effet, avant que celui-ci ne commence sa scolarité à Poudlard, Bellatrix prenait presque autant de plaisir à lui raconter ses exploits qu'à les réaliser. Régulus l'écoutait toujours avec la plus grande attention, ses yeux gris écarquillés, impressionnés par autant de puissance et de talent. Il lui allouait toute l'admiration que le père de Bellatrix avait oublié de lui donner. Et depuis qu'il était à Poudlard, Bellatrix n'avait plus personne pour la regarder comme il le faisait. Il s'était échangé quelques lettres où Régulus lui avait parlé de ses nouveaux amis, dont un certain Severus Rogue que Bellatrix ne pouvait s'empêcher de jalouser. Dans ses lettres, Régulus lui promettait de la rejoindre au sein des Mangemorts dès qu'il aurait fini sa scolarité à Poudlard. Mais il n'avait que 14 ans et Bellatrix était découragée par le temps qu'il lui restait à attendre. Malheureusement pour ses innombrables victimes, le seul remède que Bellatrix avait trouvé pour anesthésier le désarroi qu'il habitait était de déverser sa rage sur autrui. En effet, chaque crime la plongeait dans un état de torpeur délicieuse, où elle se sentait engourdie, anesthésiée, libérée de sa propre conscience, détachée d'elle-même et de tous ses soucis. Cela ne durait pas, et ses ruminations finissaient toujours par la rattraper. Il lui fallait alors recommencer, plus vite, plus fort. Chaque crime en appelait un autre, toujours plus violent, toujours plus cruel. Hélas, loin d'éteindre le mal-être qui la dévorait, ses crimes ne faisaient que l'enraciner, l'ensevelir sous d'innombrables couches de plomb, la rendant ainsi inaccessible à toute forme d'apaisement durable. Depuis bien longtemps, Bellatrix était devenue incapable d'identifier ses émotions, de les analyser, de les expliquer. Et lorsque celles-ci l'envahissaient, elle était à leur merci, incapable de les maîtriser. Et elle n'avait plus d'autre choix que de les faire taire à grands coups de violence. Alors, enfin, les cris de supplication de ses victimes provoquaient ce qu'elle désirait si ardemment. Elle disjonctait littéralement, se détachait de toutes ses pensées, se laissait engourdir par une décharge fulgurante d'énergie, pendant laquelle elle se sentait invincible, toute puissante, capable de tout, y compris de s'éviter de souffrir. Puis elle retombait, engourdie, hébétée, détendue. Le simple fait de penser à cette déflagration d'adrénaline et à la léthargie enivrante qui suivait lui faisait serrer les poings et lui donnait envie de saisir sa baguette afin de provoquer des cris de douleur qui couvriraient enfin le bruit assourdissant et inintelligible de ses pensées. « Alors, Bellatrix, encore en train de rêvasser ?» demanda une voix goguenarde provenant d'une ombre trapue qui s'approchait d'elle. « Il ne manquait plus que ça !» gronda intérieurement Bellatrix en reconnaissant Rodolphus Lestrange. Dès qu'elle se mettait à l'écart, ce lourdeau venait l'importuner. Rodolphus en avait toujours pincé pour elle et semblait persuadée que ses tentatives d'approche répétées finiraient par avoir de l'effet. Mais Bellatrix ne répondit rien et ne laissa rien paraître. Elle avait l'impression que tous ses membres étaient de plomb. « Je sais ce que tu penses, » dit Rodolphus. « Tu en as assez de Yaxley, de ses petites combines et de ce fichu sortilège Imperium, n'est-ce pas ?» Sans répondre, Bellatrix se renversa sur le dossier de sa chaise et posa une main sur ses yeux. « Par pitié, » pensa-t-elle, « qu'il me laisse tranquille. » « Tu sais, je pense la même chose que toi, » dit Rodolphus Lestrange en s'asseyant tout près d'elle. « Moi aussi, je crois que nous perdons notre temps à suivre les manigances de Yaxley. Moi aussi, je préférerais combattre à l'air libre plutôt que d'échafauder des stratagèmes sans fin dans cette cave étouffante. Moi aussi, je crois que tous les autres rechignent à combattre parce qu'ils sont lâches. » Bellatrix sentit son haleine lui effleurer la joue et fut submergée par la nausée. « Nous avons plus de points communs que tu ne le crois, Bellatrix. Nous sommes les seuls qui croyons vraiment au Seigneur des Ténèbres. » Soudain, Bellatrix sentit quelques gouttes d'alcool l'éclabousser. Juste à côté d'elle, Rodolphus Lestrange poussa un hurlement. « Argh ! Encore toi, sale petite garce !» À travers le brouillard de son esprit embrumé, Bellatrix distingua une silhouette mince, hautaine, distinguée, de longs cheveux blonds et lisses. Sa vision trouble s'éclaircit aussitôt. « Si, si !» s'exclama-t-elle en se redressant d'un bond. « Je n'ai pas pu résister, » sourit Narcissa en désignant la chope qu'elle venait de vider sur la tête de Rodolphus Lestrange. Bellatrix lui arracha la chope des mains et d'un geste brusque la fracassa sur la tête de Rodolphus Lestrange qui poussa un nouveau cri de rage et de surprise. Puis, après un coup de pied bien placé de la part de Bellatrix, il se plia en deux et se recroquevilla misérablement sur le sol. Les quelques hommes qui s'étaient détournés de Voldemort pour observer la scène émirent des exclamations de douleur solidaire et d'autres éclatèrent de rire. « Ça lui apprendra !» déclara Bellatrix. Puis elle se tourna vers sa petite sœur et toutes les deux se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, mêlant leurs parfums respectifs de fumée et d'eau de toilette coûteuse. « Si, si, tu es revenue, Bella !» « Tu m'as manqué !» lui souffla Bellatrix. « Désolée pour la dernière fois. » Tous ceux qui avaient côtoyé Bellatrix de près ou de loin savaient à quel point il était rare d'entendre des mots d'excuse de sa part. Narcissa en fut honorée, mais également inquiète. Pour que Bellatrix s'abaisse à cela, il fallait vraiment que son moral soit au plus bas. « Tu t'es enfin décidée à te débarrasser de Lucius ?» demanda Bellatrix pleine d'espoir. « Non. » Il est en haut. Le sourire de Bellatrix s'effaça. Tu as amené Lucius ici? Oui. Burton se souvenait de moi, il a donc accepté de me laisser descendre, mais il retient toujours Lucius en haut. Il attend l'accord de... du Seigneur des Ténèbres pour le laisser entrer. Autour d'elle, des ricanements enthousiastes fusaient de toutes parts. Hé, regarde-moi ça! Visez un peu qui est de retour. La dernière fois, elle s'est enfuie en courant. Je vous le rappelle. Alors, Sissi, on espère que maintenant tu fais moins ta mijaurée. Elle a agressé mon frère, s'indigna Rabastan Lestrange en exhortant ses voisins. Il faut la punir. Essaye seulement et tu auras affaire à moi, dit Bellatrix en s'interposant. Écartez-vous tous, dit une voix doucereuse, aiguë et sifflante, au-dessus des exclamations moqueuses. La voix était calme, mais semblait venir de tous les endroits à la fois et résonnait avec plus de force que tous les braillements des embrumés réunis. Toute l'agitation retomba immédiatement et tout le monde se tut. Dans la lumière vacillante des torches qui brûlaient le long des murs, à travers l'atmosphère enfumée de la cave du serpent qui fume, Narcissa distingua une silhouette encapuchonnée fendre le groupe qui s'était formé autour d'elle, et Voldemort posa ses yeux incandescents sur elle. Elle sentit à nouveau son regard de braise la transpercer de part en part, mais en serrant la main de Bellatrix dans la sienne, elle réussit à rester stoïque malgré tout. « Ma chère Bellatrix !» commença Voldemort sans quitter Narcissa des yeux. Bellatrix frémit en l'entendant prononcer son prénom. « Ne m'avais-tu pas dit que ta sœur se défiait de moi ?»« Si, maître, » concéda Bellatrix en se penchant légèrement vers l'avant pour mieux le convaincre de sa bonne foi. Initialement, elle ne voulait pas croire en votre puissance, mais vous voyez qu'elle a fini par entendre raison. » À son tour, Narcissa fit une petite révérence. « Oui, maître. Désormais, je suis tout à vous. » Voldemort observa longuement les deux sœurs Black. Tous les yeux étaient rivés sur lui et guettaient sa réaction. « Avant notre première rencontre, Bellatrix m'avait longuement parlé de toi, Narcissa, » dit-il finalement. « Je dois dire que j'ai été déçue de voir que tu t'étais lâchement enfuie. Plus déçue encore d'apprendre par Bellatrix que tu l'avais méprisée le jour de ton mariage. J'ai commis des erreurs, maître. Aujourd'hui, je les regrette et ne peux que vous demander de me pardonner. » « Et pourquoi te pardonnerais-je ? Parce que ce serait dans votre intérêt ?» Quelques ricanements fusèrent devant autant de présomptions. « Dans mon intérêt ?» répéta Voldemort avec amusement. « Voilà qui est intéressant. Tu as refusé de rejoindre mon camp alors que Bellatrix t'en a donné plusieurs fois l'occasion. Tu viens d'agresser un de mes plus fidèles serviteurs qui m'a été utile à de nombreuses reprises. » Rodolphus Lestrange essuya son visage poisseux dans un torchon que lui tendait son frère et renifla avec animosité à l'intention de Narcissa. « Donne-moi une seule raison de l'empêcher de te donner la correction que tu mérites. » Bellatrix s'avança d'un pas pour défendre sa petite sœur, mais Voldemort fit un geste imperceptible de la main et elle s'arrêta net. Elle jeta un regard de côté à Narcissa, lui signifiant que c'était à elle de répondre et la suppliant de trouver une réponse convaincante. Narcissa regarda tour à tour les mines revêches des frères Lestrange, la carrure écrasante de Thorfinnroll, le couteau effilé qui pendait à la ceinture d'Alecto Caro, le long visage tordu d'Antonin Dolohov, et tous les autres, qui l'observaient avec une hostilité manifeste. Visiblement, il souhaitait ardemment assister à une nouvelle démonstration de violence et de cruauté. Mais bientôt, se dit Narcissa pour se donner du courage, si leur plan réussissait, tous ces hommes seraient contraints d'obéir à ses ordres et à ceux de Lucius. « J'aimerais que mon mari soit présent pour vous donner toutes les explications nécessaires, » dit Narcissa en relevant le menton. « Il est en haut et attend votre autorisation pour descendre. » Voldemort se tourna vers son plus proche voisin. Corban Yaxley était, depuis quelque temps, grâce à son habileté toute particulière pour le sortilège Imperium, le favori du Seigneur des Ténèbres. Il était grand et costaud, ses cheveux blonds et lisses étaient attachés en queue de cheval et son visage était fait de reliefs grossiers, comme s'il était taillé dans un bloc de pierre. « Qu'en penses-tu, Yaxley ? Devrions-nous accepter ? Devrions-nous rencontrer ce… » Il interrogea Narcissa du regard. « Son nom est Lucius Malfoy. » compléta Narcissa avec froideur. « Très bien. Alors, Yaxley, devrions-nous écouter ce que ce Lucius Malfoy a à nous proposer ?» Yaxley fit craquer ses phalanges et croisa les bras avec suffisance, flatté que le Seigneur des Ténèbres consulte son avis. « Honnêtement, maître, je ne vois pas ce qu'il pourrait nous apporter, » dit Yaxley. « Nous n'avons pas besoin de lui pour gagner. » Nous ferions mieux de les punir, lui et son épouse, pour avoir mis autant de temps à se décider. »